avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque vendredi, éducation, formation. Et aujourd'hui, tout particulièrement, la galère des stages. Ils sont devenus indispensables, on le sait, dans de nombreux cursus d'études. Le problème, c'est comment trouver un stage, si possible un stage formateur et pas un stage photocopie. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Difficile de se montrer exigeant, en même temps quand de nombreuses entreprises considèrent les stagiaires au mieux comme une main-d'œuvre d'ajustement, justement, au pire comme des boulets inutiles, et en tout cas rarement comme les talents de demain. Et vous, les voisins, si vous êtes étudiant ou patron, quelle est votre expérience? On attend bien sûr vos témoignages en direct, et puis vos questions sur les recherches de stage. Appelez-nous, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, dès maintenant, 33 1 84 22 71 71, et bien sûr les messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. En studio pour dialoguer avec vous et vous donner des conseils aussi, si c'est votre problème, Rachida Soucy, spécialiste emploi et stage pour le site internet Studirama Emploi. Bonjour Rachida.
Bonjour.
Virginie Salmen-Hegel-Frilé, vous êtes fondatrice de l'association Viens voir mon taf, un réseau pour les jeunes sans réseau, c'est-à-dire traduisez sans piston, c'est ça?
Exactement.
Oui, et, ou sans bras longs, comme on dit dans certains pays. Amaury Montmoreau, président et fondateur d'Agistage, c'est le premier cabinet de recrutement pour les stagiaires.
Bonjour.
C'est bien cela?
Tout à fait.
Mais ce ne sont pas les stagiaires qui payent, ce sont les entreprises.
Exactement.
Qui font appel à vos services.
Services entièrement gratuits pour les étudiants.
On va en parler. Nous serons également en ligne à Abidjan avec Cynthia Chekete, qui est consultante senior au sein du cabinet de recrutement Afrique Search. Appelez-nous dès maintenant si vous connaissez la galère des stages. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages qui nous sont parvenus sur le fil Facebook. Il y a le cri du cœur d'Oumar. Il est à N'Djamena au Tchad, mais il résume en fait le ressenti de très nombreux auditeurs. Le stage, nous dit Oumar, est devenu de plus en plus difficile à trouver. Tout est gangréné par la corruption, le népotisme. Et voir des places de stagiaires occupées par des incompétents, eh ben c'est vraiment compliqué pour ceux qui sont pleins de bonne volonté. Isabelle, à Bamako, même pour trouver un stage non rémunéré, c'est un casse-tête au Mali. Et quand tu trouves, tu n'as jamais de mission intéressante. Alors comment acquérir de l'expérience si personne ne veut nous donner de stage? Ou encore Abdoulaye, qui est à Douala, au Cameroun. L'année dernière, afin de valider ma licence professionnelle, il fallait que j'effectue un certain nombre de stages. J'ai fait beaucoup de demandes dans de nombreuses sociétés, on ne m'a jamais rappelé. Un ami a poussé mon dossier dans la société de son père. Et évidemment, j'ai été pris. Forcément, comme ça ne faisait pas partie de mes choix, c'était difficile de m'intégrer. Mais j'ai eu un chef génial qui appréciait mon travail, me motivait tous les jours à mieux faire. Et il m'a même aidé à trouver du travail à la fin de mon stage. Ce stage sera toujours une expérience inoubliable. Voilà, il y a aussi quand même des formidables histoires hein, dans les stages. Appelez-nous en tout cas pour questionner, solliciter des conseils. 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Le réseau, le piston, le bras long, tous évoquent tout de même cette problématique, d'ailleurs souvent, quels que soient les pays. Rachida Soucy, aujourd'hui, comment globalement les jeunes trouvent un stage en France?
Alors, il y a plusieurs façons de trouver un stage. On peut dire que l'école, le réseau d'écoles est très important aujourd'hui, notamment pour les grandes écoles. C'est vrai que les étudiants peuvent faire appel au réseau des anciens, par exemple, pour pouvoir justement leur demander des conseils et savoir si éventuellement il y a des possibilités dans leurs entreprises de faire un stage également. Et il y a de la façon, on va dire, un peu moins directe, mais d'aller rencontrer les entreprises, en fait, lors de forums d'entreprises ou de salons de recrutement. Et du coup, c'est l'occasion de proposer sa candidature, de montrer que, justement,
oui,
on a
de
envie.
De se rencontrer physiquement,
voilà,
c'est déjà
exactement,
plus simple.
Exactement.
Ça veut dire qu'envoyer une lettre de candidature pour un stage comme ça, dans le vide, par courrier électronique, c'est pas gagné d'avance.
Alors ça dépend, parce que si l'entreprise justement a posté une offre, c'est qu'elle a un besoin. Donc du coup, si l'étudiant répond à cette offre et répond aux critères, il a de fortes chances d'être appelé pour un entretien. Donc ça marche aussi encore, heureusement.
Virginie Salmen, Gaëlle Frilé. Virginie Salmen, vous êtes journaliste éducation à Europe 1. Hein, oui. Et Gaëlle Frilé, vous êtes professeure d'anglais. Vous avez fondé cette association Viens voir mon taf. Vous, qu'est-ce que vous constatez globalement là, sur le marché des stages en général en France, Virginie Salmen?
Alors nous, on s'intéresse justement aux élèves de 3e. Il y a un stage obligatoire ici en France de 5 jours pendant l'année de 3e. Donc les élèves qui ont 14-15 ans. Et on se rend compte que les élèves qui sont dans des zones un peu plus sensibles, des quartiers populaires, ont du mal à trouver... Enfin, il y a une expression ici qui s'appelle le stage kebab. Vous savez, en gros, c'est on trouve un stage au kebab du quartier. Ou alors, généralement, les élèves font le trajet entre chez eux et le collège. Et sur le trajet, il y a peut-être un coiffeur, une pharmacie. Et puis, quand les plus rapides ont pris ces stages, eh ben, il n'y a plus de stage pour les autres. Mmh. Alors nous, justement, on voulait remédier à ça et se dire d'abord, notre idée de départ, c'est qu'on s'est dit, on va ouvrir notre propre réseau carnet d'adresses aux élèves pour qu'avec les gens qu'on connaît, nous, ils puissent trouver des stages parce qu'ils ont plein d'envie, évidemment. Ils sont brillants, ils ont beaucoup de rêves. Et on s'est dit déjà, avec tous les gens que nous on connaît et qui ont envie de faire quelque chose, ouvrir leurs portes 5 jours par an, c'est tout à fait faisable. Voilà ce qu'on a fait.
Gaëlle Frilé.
Oui, le problème, moi, enseignante, j'avais des élèves de 3e et au mois de décembre, ils partaient en stage, revenaient après les vacances avec des mines dépitées, déçues. Ils avaient tous perdu leur temps, c'était nul, on fait rien, ils ne s'intéressent pas à nous. Et donc, ce constat-là, j'en avais vraiment assez. Et je me suis dit que ces élèves avaient autant, voire plus parfois, de capacité, de motivation pour faire des stages, mais qu'ils n'en avaient pas la possibilité par manque de pistons. Et donc, on va les aider. On va essayer de trouver des stages pour ces élèves-là.
Mais ça veut dire que quand même, le problème du réseau et du piston... Alors, réseau et piston, ce n'est pas la même chose non plus. Hein, mais il est quand même répandu, que ce soit pour ces jeunes qui cherchent un stage en 3e, le fameux petit stage obligatoire, certes, qui n'est pas déterminant pour trouver un emploi... Mais c'est important aussi dans le parcours d'un jeune parce que ça va être sa première expérience dans le monde du travail, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est très important et c'est un moment charnière. La classe de 3e, c'est juste avant l'orientation, le lycée, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je m'oriente vers des études plutôt longues ou déjà professionnelles ? Et concernant ce stage, il y a la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui avait dit ça au mois de décembre dernier en disant « Mais vous vous rendez compte, il y a des élèves de 3e qui se rendent compte que lorsqu'ils cherchent un stage gratuitement, ils ont du mal, ils galèrent à trouver un stage alors que c'est non rémunéré. Mais ces élèves-là, quand ils sont refusés comme ça, quelle va être leur attitude quand, lorsque plus tard ils chercheront un emploi?
Mais surtout, ils se disent qu'est-ce qui m'attend plus tard?
Mais personne
ne me donnera jamais. Oui, c'est ça.
Alors, Amaury Montmoreau, pourquoi vous avez créé un cabinet de recrutement pour stagiaires? Là, on parle bien de stagiaires qui sont en train de faire des études, hein, en général post-bac, non?
Alors nous, on touche d'abord une population qui est de bac plus 2 à bac plus 5.
Oui.
Donc des personnes dans des études et on est sur des stages plus longs, c'est-à-dire de 3 à 6 mois.
Oui. Ou alors, sinon, qui peuvent connaître les mêmes galères que ce qu'on vient de raconter
tout à fait.
Là. Hein.
Alors quand j'entends le stage kebab, en fait c'est un peu la même chose, donc de manière plus élargie. Mais l'idée est là, c'est que généralement...
Stage photocopie, c'est ça ?
Alors, c'est pas tant stage photocopie, c'est plus la problématique qu'on identifie les entreprises qu'on consomme, les entreprises qui sont de nos parents ou des amis de nos parents, et on va pas forcément aller chercher plus loin. Et en fait, sur cette notion de réseau, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire aussi que les entreprises, elles n'ont pas forcément le réseau, elles, de leur côté. Du coup, il y a aussi des entreprises qui recherchent. Et le vrai challenge, en fait, c'est de réussir à trouver ces entreprises-là, qui, elles, pour le coup, n'ont pas forcément des accès dans les établissements scolaires, n'ont pas forcément des accès...
Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des entreprises qui cherchent des stagiaires, alors qu'il y a tellement de stagiaires qui ne trouvent pas de stage ?
Tout à fait. Il y a des entreprises qui cherchent des stagiaires, des entreprises qui ont arrêté de prendre des stagiaires parce que justement, pour elles, c'était une galère de trouver un stagiaire. Il y a bien des entreprises qui, nous rémunèrent pour trouver des stagiaires. Donc, c'est qu'à un moment donné, en fait...
Là, vous parlez de secteurs en tension, non ? Le bâtiment, les métiers de bouche, l'hôtellerie, la restauration...
Alors, nous, on touche... Alors, il y a des métiers en tension, tout à fait. Ensuite, il y a également plein de métiers qui sont des métiers du quotidien. Alors après, on est bien évidemment on est sur une population de personnes qui sont diplômées. Quand je dis diplômées, qui sont au cours d'un diplôme.
Mais quel genre de secteur où on a des entreprises qui cherchent des stagiaires et qui n'en trouvent pas ?
Le commercial, l'informatique, le marketing, la communication, le droit. tous ces secteurs-là, finalement, où il y a des entreprises. Si on regarde bien, si on fait la liste dans l'ensemble des entreprises pour lesquelles on peut être amené à postuler, je ne suis pas sûr que ça dépasse 100 entreprises. Pourtant, il y a des millions d'entreprises aujourd'hui. Donc, il y a des opportunités dans chacune de ces entreprises-là.
Rachida Soucy.
Exactement, parce qu'en fait, on remarque souvent que les candidats postulent au sein des grands groupes et pas assez dans les petites entreprises, les start-up, alors qu'elles offrent beaucoup d'opportunités. Nous, sur Studiarama Emploi, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a pas mal d'offres assez variées. Il y a en moyenne, on va dire, 2000 offres par mois. Donc, ça veut dire qu'il y a des stages à pourvoir.
Vous constatez aussi tout de même, Virginie Salmen et Gaël Frillet, qu'il y a aussi un problème de méthode de recherche de stage. Alors évidemment, pour des petits collégiens de troisième, on peut difficilement leur en vouloir de ne pas avoir ces méthodes-là. Mais ce n'est pas seulement un problème de milieu social, puisque beaucoup, de très nombreux jeunes galèrent.
Mais c'est un peu la même chose pour eux, en fait. On se disait, ils connaissent, par exemple, le boulanger, le mécanicien, les commerces ou les métiers qu'ils ont pu voir dans leur vie quotidienne. Mais finalement, il y a plein de trucs qui les intéresseraient et qu'ils ne connaissent pas, tout simplement.
Je pense qu'en fait, la première étape, et quel que soit le niveau, c'est de savoir ce qu'on recherche. On ne peut pas trouver quelque chose si on ne sait pas ce qu'on recherche, finalement. Et je pense que c'est la plus grosse problématique, et que ce soit en troisième ou alors pour des stages de fin d'études de Bac plus 5, c'est qu'on on se retrouve avec beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils recherchent, et ils prennent un stage pour finalement valider un diplôme ou parce qu'il faut le faire, et pas parce qu'ils ont vraiment envie ou qu'ils construisent un plan derrière.
Alors, il y a tout de même une vraie méthode pour rechercher des stages, et puis surtout pour s'assurer d'avoir un stage de qualité, parce que ce n'est pas le tout de trouver un stage. Quand effectivement, vous nous rapportez les témoignages de ces jeunes qui reviennent dépités au bout de quelques jours, appelez-nous en tout cas pour nous parler de vos difficultés. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Je vous lis le message d'Ariel, 21 ans, qui écrit de Tourcoing, donc en France, qui est apprentie journaliste. Elle nous dit « Je n'ai trouvé qu'un seul stage en France de journaliste parce que c'est dans d'autres pays qu'il y a plus d'opportunités, comme au Canada ou en Angleterre. Lorsqu'on n'a pas de piston, elle aussi, elle parle de ça, il faut commencer dans des petites structures et à l'étranger. Il se focalise sur la motivation, la volonté et l'expérience plutôt que sur les diplômes et les relations. » Qu'est-ce que vous en pensez, Rachida Soucy ?
Alors, ça m'étonne qu'elle trouve qu'une seule offre de stage dans le monde du journalisme, parce que quand même, il y a pas mal de stages proposés à l'année.
C'est vrai qu'on répond à des candidatures spontanées. Voilà. Si je le précise, donc des gens qui n'ont absolument aucun réseau, aucun piston, qui ont simplement envoyé leur CV. Voilà,
et il ne faut pas en fait se fixer, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur certaines... par exemple, grande rédaction, il faut aussi aller voir du côté des sites web. Il y en a plein, donc c'est l'opportunité aussi de faire ses premiers pas.
Mais sur la différence de culture avec les pays anglo-saxons, non ? Pas de... parce qu'on a eu, on a pas mal de témoignages quand même de ce type, non ? Virginie Salmen
Mais la culture du réseau, par exemple, on en parlait... C'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisé dans les pays anglo-saxons et c'est pas une honte du tout. Les gens, très rapidement, enfin très tôt, les élèves, les étudiants ont cette notion-là. Et nous, d'ailleurs, à Viens voir mon taf, quand on a des élèves de 14-15 ans, ils font leur stage. Alors, ils passent 5 jours avec un professionnel, une première rencontre avec un adulte en plus, c'est un peu impressionnant, mais on leur dit à la fin du stage... Vous avez rencontré quelqu'un, vous prenez le numéro de téléphone, vous entretenez le lien, c'est le début de votre propre réseau. C'est pas aberrant de construire son réseau dès 14-15 ans. Et ça sera utile pour plus tard. Je le recontacterai pour un avis sur un CV, pour un avis sur une orientation, ou des choses comme ça. Et ça commence tôt, mais il faut l'avoir en tête.
Oui, d'ailleurs, on donne aussi des conseils aux stagiaires. On leur dit, par exemple, la bonne année, on peut le souhaiter à la personne qui nous a accueillis en stage. C'est des politesses, mais ça maintient le lien. C'est des choses vraiment qui aident plus tard. Parce que 5 ans plus tard, vous pourrez lui dire est-ce que vous pourriez m'aider pour relire un CV ou quelque chose comme ça ? Et du coup, il y a un stagiaire cette année avec une accueillante qui a fêté la Saint-Valentin, qui lui a dit « Bonne Saint-Valentin, madame !» Alors elle a dit « Écoute, la Saint-Valentin, c'est vraiment la fête des amoureux, mais l'intention est parfaite, c'est exactement ça qu'il faut faire.
» Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Fataou qui nous appelle du Bénin, de Parakou. Bonjour Fataou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Fatahou, je crois que vous avez dit au Standard que vous avez vous-même, alors là, vous êtes diplômé, hein, vous avez eu une maîtrise à l'université de Parakou de gestion des entreprises, mais vous avez été pénalisé pendant vos études du fait que vous ne trouviez pas de stage.
Oui, effectivement. Et actuellement, d'abord, je suis un gestionnaire de production et de stock dans une structure Parakou.
Oui.
Maintenant, comme je l'ai dit, alors que j'étais un étudiant en fin de formation en sciences économiques et de gestion de la dite université,
oui.
Et comme vous le savez, à la fin d'une formation en gestion, il faut écrire un mémoire.
Oui.
Et ça, la suite sera, on dirait, soutenue. Maintenant, et mon thème portait sur l'effet du recours au cabinet de recrutement sur la performance des entreprises béninoises. Alors, il me fallait trouver une ou deux entreprises afin que je puisse mener une étude, une analyse comparative.
C'est ça, vous aviez besoin d'un stage pour écrire votre mémoire de fin d'études, hein, c'est ça, qui porterait sur les méthodes de recrutement des entreprises.
Non, j'avais plutôt besoin. Maintenant, j'ai fini avec cela, c'est dans le temps.
Oui, mais donc vous n'avez pas trouvé de stage du tout.
Oui, en son temps, je n'avais pas du tout trouvé, malgré ma bonne volonté, toutes les recherches que j'ai entreprises pour en trouver ne serait-ce que stage, même bénévole.
Oui.
Oui, et j'avais ciblé une ou deux entreprises, mais la première entreprise m'a posé une grande liste de conditions à remplir avant d'être embauché en tant que stagiaire dans son entreprise.
Oui. Donc vous aviez le sentiment que les entreprises, en fait, en vous posant énormément de conditions, cherchaient à vous décourager, c'est ça?
Effectivement. J'ai eu l'impression par la suite que c'était une façon indirecte pour les petites entreprises de me dire non.
Mais alors ceci dit, donc, vous n'avez pas pu faire votre stage, vous avez dû donc changer de sujet de mémoire de fin d'études et pour cause puisque vous n'étiez pas en entreprise, donc vous ne pouviez pas observer les méthodes de recrutement de l'entreprise en faisant votre stage. Mais ceci dit, vous avez quand même fini par trouver un emploi, Fatahou.
Oui, mais vous savez, ils m'ont découragé au point où même j'ai été obligé de changer le thème de mon mémoire.
Oui.
Au lieu que ça soit beaucoup plus accentué sur le cas spécifique d'une ou deux entreprises, j'ai été obligé de changer le thème de ma mémoire qui finalement est dans une
générale. Vous êtes nombreux dans ce cas, Fatahou, à ne pas trouver de stage de fin d'études?
Bon, au Bénin, vous savez, il y a des milliers de jeunes dans mon cas et même plus petits.
Oui, des milliers. Merci de nous avoir appelé, Fatahou. En tout cas, vous pouvez continuer de nous appeler, surtout si vous connaissez en ce moment même des difficultés pour trouver une entreprise qui vous accepte, que ce soit pour un stage rémunéré, non rémunéré. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On dit beaucoup que tout de même que la recherche de stage, bien sûr, il y a une méthode. Il y a aussi un savoir-être que les entreprises évaluent également et pas seulement un CV qui arrive, un peu comme quand on recherche un emploi, non?
Oui, tout à fait. La recherche de stage s'apparente à la recherche d'un premier emploi. Donc, il faut adopter, on va dire, la même attitude. Donc, que ce soit au niveau de la candidature, il faut la soigner. Donc, la lettre de motivation et le CV doit être parfait, entre guillemets. Essayer de répondre à l'annonce, donc essayer de coller à l'offre de l'entreprise. Et puis, au niveau de l'entretien, c'est essayer justement d'adopter les codes de l'entreprise, donc se renseigner sur l'entreprise pour pouvoir en parler et justement montrer aussi qu'on a un savoir-être et pas que des compétences.
Amaury Montmoreau, les jeunes, enfin, connaissent-ils ces codes-là pour la recherche d'un stage?
Honnêtement, pas toujours, voire même assez rarement. Au niveau de la méthode en elle-même, on a dit d'abord la première chose, c'est savoir ce qu'on va chercher. Ensuite, c'est de se dire comment on va trouver ce stage et est-ce qu'il est en adéquation par rapport à la réalité du marché. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire le briseur de rêve, mais tout le monde ne peut pas tout faire.
Ouais. Alors justement, on va en parler. Hein. Bien sûr, vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions. On se retrouve juste après le flash, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 3 minutes.
Carrefour.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, éducation, formation, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, on parle de la galère des stages. Comment trouver un stage et si possible un bon stage, un stage formateur. Quelle méthode de recherche, quel devoir aussi pour les entreprises. La situation est largement réglementée dans un pays comme la France, on en parlera. Est-ce que finalement ça profite aux stagiaires ou pas? On discute avec vous, Rachida Soussi, vous êtes spécialiste emploi et stage chez Studirama Emploi. Virginie Salmen-Gaël Frilé, vous vous appartenez à l'association que vous avez créée. Viens voir mon taf, et ça s'adresse vraiment à des collégiens, mais c'est aussi là que tout commence, notamment dans les quartiers en difficulté où les collégiens n'ont aucune possibilité de connaître une entreprise qui les accepterait pour le fameux stage obligatoire en fin de troisième. C'est que 5 jours, mais la recherche et la galère pour trouver ces 5 jours est largement disproportionnée, oui, par rapport à la durée du stage. On va en reparler avec vous. Amaury Montmoreau, vous avez fondé il y a 6 ans Agistage, qui est un cabinet de recrutement pour stagiaires, mais qui est financé par les entreprises. Nous sommes également en ligne à Abidjan avec Cynthia Chiquete, consultante senior au sein du cabinet de recrutement Afrique Search. Bonjour Cynthia Chiquete.
Bonjour Emmanuel.
Alors votre cabinet de recrutement Afrique Search, bien sûr, est spécialisé dans le recrutement de cadres confirmés et pas du tout dans le monde des stagiaires. Néanmoins, vous êtes en contact permanent avec les entreprises. Vous voyez bien les stagiaires qui passent dans les entreprises. Est-ce que le marché de l'emploi qui redémarre en Côte d'Ivoire à la faveur de la croissance économique, est-ce que ça profite aux étudiants stagiaires ou pas vraiment ?
Pas vraiment, je dirais vraiment pas vraiment. Le constat, écoutez, il est le même. Que ce soit en France ou en Afrique, je dirais même avec un niveau de difficulté plus accru sur l'Afrique. Il y a tout simplement aucun accompagnement des universités ou des écoles. Et on encourage les étudiants à se débrouiller par eux-mêmes, ce qui fait que la famille, le réseau, le piston devient pour eux la seule alternative possible. Et je dirais peut-être même de développer la débrouillardise et une sorte de motivation. J'entendais précédemment parler des start-up. Ouais. Ça peut être une nouvelle opportunité justement pour les stagiaires de passer par les réseaux sociaux pour se faire voir, pour se vendre. Parce que l'entreprise aujourd'hui en Afrique, malheureusement, déjà pour trouver un emploi, c'est une vraie galère. Donc le stage, ça devient encore plus compliqué. On a des stagiaires qui ont un BTS. La partie théorique est terminée et ils sont en recherche de stage depuis 2 ans.
Ah oui, donc ils ne peuvent pas valider leur BTS en fait.
Ils ne peuvent pas valider leur BTS. Donc soit ce qu'on va retrouver en face de nous, ce sont des stagiaires, des personnes, des étudiants qui recherchent un stage, mais qui n'ont même pas la possibilité de trouver le premier stage. Ouais. Et après, ça va devenir, lorsqu'ils en trouvent un, on rentre dans l'accumulation de stages pour trouver un poste. Ouais. Un emploi.
Mais alors, on le sait, nos auditeurs, on est bien placés pour le savoir, sont extrêmement agiles sur les réseaux sociaux, les jeunes. Mais est-ce qu'ils ont le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux pour trouver un stage? Parce que beaucoup nous disent « Ah mais j'ai pas le bras long, j'ai pas l'oncle, la tante qu'il faut, la famille qu'il faut pour me trouver un stage, donc je suis dans la galère ». Ont-ils l'idée de chercher autrement aujourd'hui, selon vous, Cynthia Chiquete?
Justement, c'est pour ça que je fais référence aux réseaux sociaux qui devient, parce que les startups sont la plupart du temps créées par des jeunes et en passant par les réseaux sociaux, les chances sont un peu plus fortes que de passer par le canal traditionnel parce que ça marche beaucoup par piston et malheureusement, on en a qui n'ont pas, qui sont moins chanceux, qui n'ont pas la chance d'avoir ce réseau influent de personnes qui vont les aider. Donc, ce qu'ils font, des cas pratiques, c'est d'envoyer leur CV sur des postes où ils n'ont même pas le niveau. On va mettre un poste de responsable commercial et on va recevoir des niveaux de stagiaires juste parce qu'ils cherchent un stage, ils cherchent à se voir, à se faire connaître.
Oui, c'est ce que vous disiez, Amaury Montmoreau. Hein. Oui. Restez en ligne avec nous, Cynthia, parce qu'Amaury Montmoreau, vous disiez ça juste avant le flash. Hein. Avoir quand même une idée assez réelle de ce que l'on peut faire, de ce à quoi on peut prétendre ou pas quand on prétend à un stage. Évidemment, c'est qu'on est en cours de formation ou même en fin de formation, inexpérimenté et pas encore très compétent techniquement.
Tout à fait. Il faut avoir une notion, une réalité du marché et il faut être fier de ses qualités, mais aussi conscient de la manière dont qu'on a un stade où on doit progresser et qu'on a un stade où on doit encore faire ses preuves. Et donc, c'est un peu parfois la difficulté que nous on rencontre ici. C'est des personnes qui, parce qu'ils veulent se vendre, voilà, parce qu'ils veulent se mettre en avant, finalement, ils vont aller prétendre à certaines choses qui...
À quoi vous pensez, par exemple ?
Là, l'exemple qui était donné par rapport à des responsables commerciaux, des personnes qui n'ont pas forcément encore de notions dans certains domaines et qui disent bah, « je veux apprendre ». Donc c'est très bien d'avoir des personnes qui veulent apprendre, mais s'il n'y a pas une certaine base théorique, bah, forcément, c'est des personnes qui ont la base théorique qui vont être privilégiées.
Cynthia Chekété, est-ce que les jeunes en Côte d'Ivoire et sur le continent africain, puisque vous connaissez plusieurs pays, savent également se présenter en entretien de stage, convaincre aussi l'éventuel maître de stage ou recruteur de stagiaires dans l'entreprise? Ont-ils une notion de cela?
Je dirais pas vraiment. Malheureusement, un constat un peu triste en Afrique, c'est de voir que lorsqu'on est stagiaire ou lorsqu'on est étudiant et qu'on n'a pas développé encore une expertise ou une compétence, on n'a pas droit à la parole. Donc, les emmener à s'exprimer est extrêmement difficile. En entrevue, l'attitude physique, déjà, est en retrait. C'est de baisser la tête, c'est d'éviter de trop en dire parce que je risque de frustrer mon interlocuteur. Donc, il faut leur apprendre, déjà, à savoir s'exprimer, à savoir se vendre sur ses motivations, mettre en avant ce qu'on recherche et ce qu'on veut développer à côté du maître de stage. Donc, c'est extrêmement difficile d'emmener un stagiaire à s'exprimer en Afrique. Il est souvent timoré, en retrait. Et puis, et ça se voit à travers la lettre de motivation et le CV. Très simple.
Alors évidemment, ils n'en sont pas à essayer de s'assurer que le stage qui est proposé, pour lequel ils seraient éventuellement pris, sera un stage formateur. C'est-à-dire qu'ils oseront encore moins poser des questions pour vérifier que le stage sera de qualité pour eux-mêmes.
Tout à fait. Et là, souvent, ils vont nous dire « Oui, mais on m'envoie juste faire des photocopies, je peux en faire plus ». Mais ça, ils vont le dire une fois que le stage est terminé.
Oui.
Ils en tirent une expérience négative parce qu'ils n'ont pas su s'exprimer. Ils n'ont pas su se mettre en avant. Et ils peuvent même des petites pistes pour les emmener à se démarquer. Souvent, ce que je leur dis, c'est présenter un portfolio de vos réalisations académiques.
Oui.
Pendant vos études. Vous avez sûrement fait quelque chose, vous avez développé, traité un sujet, vous avez fait faire le tour de la question. Présentez-le de façon dans un
On a toujours quelque chose à montrer. Oui, tout à fait.
On a toujours quelque chose
Bien
à
sûr.
Montrer.
Virginie Salmen, vous souhaitez intervenir.
Oui, l'attitude, au-delà des compétences, même, c'est vraiment, ça compte beaucoup. Et nous, donc les élèves avec qui nous, qu'on essaie de placer, entre guillemets, sont très jeunes. En troisième, ils ont 14-15 ans. Et parfois, on demande aux maîtres de stage de leur dire très franchement les choses, que, par exemple, on regarde quelqu'un dans les yeux. Qu'on arrive à l'heure, enfin, il y a vraiment des choses de base. On essaie de préparer en fait en amont, par des mails tout simplement, les élèves et les accueillants, les professionnels, en leur disant, alors voilà, attention, tu vas accueillir un ado. Alors un ado, c'est comme ça, en troisième, ils sont comme ça, pour qu'ils se souviennent, parce qu'ils n'ont pas forcément en mémoire de la façon dont on est en troisième. Et pareil du côté de l'élève. Tu vas dans le monde, tu vas voir des adultes qui t'accueillent, qui t'ouvrent les portes 5 jours de leur entreprise. C'est une chance incroyable. Soit ponctuel, mais surtout, soit comme les autres, regarde les autres dans l'entreprise, comment ils travaillent, comment ils se comportent. Il ne faut pas être à la fois trop timide, mais il ne faut pas non plus être envahissant. Donc, il faut essayer d'oser un peu.
C'est très difficile.
C'est pas facile,
ceci dit, quel que soit son âge, quand on est jeune, c'est difficile.
Ne serait-ce que dire bonjour, en fait, et au revoir à tout le monde. C'est déjà un premier pas.
Voilà. Oui.
Donc, et c'est déjà difficile parfois. C'est vrai que les étudiants n'osent pas.
Il faut un petit peu d'assurance. Voilà. Oui, en troisième, ce n'est pas toujours évident. Ouais, mais il faut, en fait, on l'a fait comprendre que c'est un bon point. C'est vraiment un truc qui va les aider.
Et en fait, en soi, les entreprises, elles cherchent quoi ? Des personnes motivées, impliquées. Donc ça, c'est un premier point. et également qui vont avoir les codes, qui vont être pros, qui vont savoir où sont leurs places, ou en tout cas, s'ils ne le savent pas dès le début, comment trouver leur place dans l'entreprise.
Mais globalement, on demande aux stagiaires de comprendre très très vite, de s'adapter très vite.
Bien évidemment, il y a certains codes...
C'est pas du tout le même espace-temps que les études.
Non.
Ouais, et puis il y a certains codes, on leur demande d'abord déjà les avoir, ces codes-là.
Cynthia Chéqueté, un bon stagiaire, alors pour vous, ça serait quoi? Celui que, évidemment, qu'une entreprise a envie de garder, j'imagine.
Tout à fait. En fait, un bon stagiaire, c'est tout simplement, je dirais, une personne motivée, débrouillable, qui saisit les opportunités qui sont en face de lui. Même si on l'envoie dans un premier temps faire une photocopie, capable de montrer qu'il ne prend pas 4-5 pages pour faire une photocopie d'une page. Plus tard, on l'enverra faire des scans. On l'enverra plus tard faire carrément rentrer dans l'opérationnel, parce que c'est ça, en Afrique, hein, les entreprises vont... les cantonner à de l'administration pure et simple. Et je leur dis, saisissez justement cette petite opportunité. Je me rappelle, j'ai fait moi, pendant mon premier stage, une semaine de photocopie et le restant du 3 mois était uniquement des tâches purement formatrices.
Donc ça veut dire que vous avez serré les dents quoi pendant la première semaine, la grosso modo.
Effectivement, il faut le faire. C'est notre première expérience dans le monde du travail. On n'a pas le choix. On peut pas prétendre à faire la tâche du maître stage qui lui peut-être est passé par une situation pire que la nôtre. Et voilà, donc c'est
Gaëlle
vraiment
Frillet.
De...
Moi, ce que j'entends là, moi je rejette complètement ce constat qui est trop triste. Nous, on refuse de demander aux élèves d'avoir un stage décevant. On veut
non,
que
mais
ça
parce
soit...
que là, vous êtes sur des stages de 5 jours pour les jeunes.
Mais
donc là, il y a vraiment...
Mais, ouais,
je suis d'accord,
mais
même sur du 3 mois, du 6 mois, faut pas laisser ça.
Non, c'est pas possible. Et après, justement, à partir du moment où les entreprises ou des professionnels sont partants pour accueillir, des gens bienveillants qui ont envie d'accueillir des stagiaires, eh ben, je ne vois pas pourquoi le stage devrait forcément passer par une semaine presque de bizutage, par une photocopie. Non, la rencontre peut se faire et ça peut très bien se passer.
Qu'est-ce que vous pensez, Cynthia Chéqueté, du message de Mokhtar qui poste ça de Niamey au Niger, qui dit dans les pays africains francophones, il faut absolument qu'on adopte une politique de promotion des stages et de l'emploi et d'insertion professionnelle à tous les niveaux. On a reçu pas mal de messages comme ça, de jeunes qui réclament une politique publique des stages.
Je voudrais juste renchérir un peu sur ce que je ne sais plus, je ne sais pas qui a peut-être dit qu'il n'était pas trop d'accord. Je dis pas que, voilà Gaël, je suis pas en train de dire qu'il faudrait accepter de faire des photocopies. Je fais juste le constat, lorsqu'ils arrivent en entreprise, la plupart rentrent dans ce schéma et se victimisent et se cantonnent à ne pas s'exprimer là-dessus. Mais je veux juste les emmener à saisir l'opportunité pour montrer qu'ils sont capables d'en faire plus.
Oui, c'est ça, dire, écoutez, je fais les photocopies, mais sachez que je suis à votre disposition aussi pour autre chose et que je serais très contente de faire autre chose. Il y a moyen et moyen de faire passer des messages. On a bien compris, mais sur les politiques publiques, est-ce qu'il faut tout attendre des politiques publiques sur les stages?
Il faudrait avoir l'apport des universités. Je crois que mettre en place un service de placement assez efficace au sein de chacune des universités, un service de recrutement qui serait responsable à partir
et tout simplement du coaching.
Mais
tout simplement aussi du coaching avec tous les conseils que vous venez de donner à l'antenne, Cynthia. On se dit que les besoins sont immenses et que ces jeunes-là n'ont pas accès à ces conseils-là.
Ils n'ont pas accès à ces conseils, donc un service de placement viendrait avoir la charge de faire ce genre d'activité. Aller chercher des marchés des entreprises, présenter aux entreprises les stagiaires finissants qui ont besoin de pratique et qui pourraient apporter une valeur ajoutée à ces entreprises-là, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec 300 stagiaires, 300 entreprises demandeuses et le placement se fait automatiquement.
C'est pas si compliqué ça n'est pas si compliqué que cela, vous pensez?
À mettre en place C'est là qu'on passe par des politiques publiques. Donc le label, et ça devient pour l'entreprise, pour l'université, un label qualité, de pouvoir dire que ces finissants sont placés à 100% en fin d'études.
Merci beaucoup, Cynthia Chiquette, de nous avoir accordé un peu de temps. Je sais que vous avez pas mal d'entretiens à faire passer, de recrutement, justement. Vous êtes consultante au sein du cabinet Afrique Search. Merci d'avoir été en direct avec nous d'Abidjan. Vous continuez de nous appeler au 33 84 22 71 71. Nous accueillons en ligne Antoine, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour, Antoine.
Oui, bonjour à toute l'équipe de RFI et à tous les invités de RFI. Donc, moi, je suis en train de faire une formation BTS comptabilité gestion. Alors, je précise que j'ai 56 ans et donc j'en ai besoin pour pouvoir compléter mes compétences techniques par des compétences administratives et de gestion, de façon à bien pouvoir diriger mon entreprise. Alors, je recherche un stage complètement gratuit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées ou qui me donnent la réponse en me disant, voilà, nous en avons parlé, la personne n'est pas intéressée ou est intéressée.
Oui.
Donc, je suis allé dans un stage.
C'est votre âge qui pose problème, vous pensez, Antoine ?
Non, je pense pas parce qu'il y a aussi une collègue qui a 25 ans. Dans la formation où je suis, elle a eu du mal aussi à trouver sa formation. Et elle fait quand même un petit peu de comptabilité, un petit peu de gestion. Mais c'est juste quoi, voilà.
Merci de nous avoir appelé, Antoine. On donne la parole à Audrey qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Audrey.
Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Audrey, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en master 1 en spécialisation conseil et du coup j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma première partie de césure. Donc la césure c'est une année en entreprise, d'immersion d'entreprise entre la deuxième année et la troisième année du diplôme.
Ouais.
Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma première partie de césure. D'ailleurs j'ai trouvé grâce à des contacts qui ont su faire passer mon CV. Au bon endroit, mais sinon au niveau des entretiens et des lettres de motivation, j'ai décroché très peu d'entretiens et j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est lié au monde du conseil.
Vous cherchiez un stage en fait dans une entreprise de conseil, ce que vous avez trouvé, voilà. Mais grâce à votre réseau personnel, grâce à des contacts personnels, c'est ça.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en envoyant des candidatures spontanées, ça ne marchait pas.
Voilà, en envoyant des candidatures spontanées, ça ne fonctionnait pas. Et en répondant aux offres de stage, ça ne fonctionnait pas non plus.
Virginie Salmen.
On se rend compte, du coup, nous aussi, avec les élèves donc des collèges de ZEP, qu'on appelle maintenant REP, que en fait, leurs parents, aux deux tiers, sont soit ouvriers, soit sans emploi. Et du coup, effectivement, ils connaissent beaucoup moins de gens. Leur réseau ou leur représentation du métier sont beaucoup moins importantes. Et c'est une difficulté vraiment supplémentaire pour les élèves. C'est pas du piston, hein, c'est juste du réseau de base. Mais il n'y a pas un parent qui dit « Alors moi, je connais tel collègue ou j'ai tel client qui bosse dans tel secteur et qui pourrait faire passer ton CV. » C'est aussi une difficulté supplémentaire pour eux.
Alors, ceci dit, je pense à, par exemple, une dame qui travaille dans une cafétéria d'entreprise, hein, qui n'a pas forcément donc un travail de cadre. Néanmoins, elle peut aussi, pour son enfant, se renseigner en discutant avec... Généralement, c'est du personnel qui a des relations avec les salariés cadres de l'entreprise. Donc, c'est aussi ça. Parfois, c'est du réseau qui serait accessible par des bonnes relations humaines et auxquelles les gens ne pensent pas, non ?
Voilà. Les gens y pensent, pour parler de mes élèves par exemple, ils ont des rêves parfois, ils ne connaissent personne dans ces milieux-là qui font rêver le foot, la justice, des choses comme ça.
Ouais.
Donc ils vont demander à papa ou à maman qui a parfois un emploi. Et moi j'ai un exemple, donc une élève brillante qui est allée travailler avec son père parce que c'était la seule chose qu'elle trouvait, qui travaillait dans une cantine scolaire et elle a passé sa semaine à rouler des beignets dans le sucre. Je pense qu'elle a roulé plusieurs milliers de beignets dans le sucre. Donc là, oui, elle avait le réseau de son père, mais ce n'était pas forcément super.
Qu'est-ce qu'on peut répondre sinon à Audrey sur la difficulté qu'elle a eue à trouver un stage dans un cabinet de conseil ?
Et est-ce que, par exemple, Audrey a déjà demandé des feedbacks par rapport à sa candidature pour savoir justement ce qui n'allait pas ? Parce que peut-être ça venait aussi de sa candidature et... J'encourage en fait, en tout cas les étudiants, à demander aux entreprises directement pourquoi ça n'a pas marché.
Il faut essayer de les avoir au téléphone en fait, finalement.
Oui, ou par mail, et s'ils sont bien gentils, ils pourront justement répondre à la personne.
Audrey, est-ce que vous avez tenté cela ?
Oui, alors en fait, effectivement, après, j'ai fait analyser ma candidature par un professionnel qui m'a expliqué que, c'est-à-dire que tous les profils se ressemblent en fait. En école de commerce, oui. Le profil prépa première année de licence, il n'y a pas beaucoup d'expérience professionnelle. La plupart des stages demandent une première expérience dans le monde du conseil. Moi, j'en avais pas. Du coup, c'est assez difficile de se démarquer dans toute la masse. Et du coup, elle m'a donné des conseils, effectivement, pour pouvoir réussir à taper dans l'œil du recruteur.
Mmh. Quel genre de conseils elle vous a donné pour taper dans l'œil du recruteur?
Ça ne sait. En fait, elle m'expliquait qu'il y avait des expériences que j'avais eues que je n'avais pas mises assez en avant.
Ouais.
Et que c'est parfois, je ne faisais pas assez bien le lien entre l'offre et ma candidature.
Amaury Montmoreau.
Oui, je voulais dire par rapport au réseau, il faut savoir que c'est à peu près 30 à 40% des stages qui sont trouvés par le réseau. Mais donc ça veut dire qu'il y a quand même 60 à 70% des stages qui sont trouvés sans le réseau. Et donc ce qui était évoqué en début d'émission, qui sont par exemple les forums, les différentes plateformes, peuvent aussi permettre, ou les établissements scolaires sont aussi là pour aider à trouver des stages.
Oui. Mais alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé Audrey, parce que vous avez vraiment souligné des questions intéressantes, mais il faut quand même qu'on creuse un peu cette question du réseau, parce que c'est essentiel en fait dans la méthode de recherche pour trouver un stage. Tout le monde pense que réseau, ça veut dire piston. Moi, j'ai le souvenir d'une personne qu'on a accueillie il y a plusieurs années à RFI en stage, qui avait tout simplement dans le métro, vu quelqu'un assis en face d'elle, qui avait un petit cartable, il y avait écrit RFI, il y avait le logo, et elle a vu le culot de tout simplement de l'accoster. Il se trouve que c'était notre chef de l'époque, et elle lui a dit, voilà, je rêve de faire un stage à RFI, est-ce que par hasard vous travaillez à RFI, je vois que vous avez un cartable RFI. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réseau pour rechercher un stage?
C'est vrai qu'on peut se le créer, tout simplement, avec le culot. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est la meilleure arme, finalement.
Et le culot, il est quand même accessible à beaucoup de monde. C'est pas... Le culot n'est pas fondamentalement injuste.
Ah, pas du tout, non. C'est une preuve de motivation même. Si le parent qui sait que son enfant cherche ou l'élève lui-même va frapper aux bonnes portes, pas forcément même sur une rencontre fortuite comme celle que vous venez d'évoquer, mais tout simplement en allant dans l'entreprise, mais s'il vous plaît, je vous assure, je suis vraiment très motivée, en montrant sa motivation, même en surjouant sa motivation. Ça plaît vraiment, on est d'accord, ça plaît vraiment aux gens qui sont professionnels.
Mais on peut aussi construire son réseau tout simplement avec les professeurs, les intervenants qui viennent en cours et qui sont souvent des professionnels. Mmh. Donc, c'est l'occasion aussi de constituer son réseau à ce moment-là.
Donc, choisir aussi toutes les opportunités. Exactement. C'est-à-dire les opportunités de rencontrer physiquement des gens du monde professionnel.
Le réseau, ça doit être un réflexe, en fait. C'est plus un état d'esprit, une manière de penser. Et ce n'est pas forcément des personnes qu'on connaît, mais c'est des personnes c'est une rencontre qu'on va créer. C'est vraiment saisir les opportunités, aller en permanence... J'ai utilisé le terme de gratter, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment... dès qu'on a l'occasion, on y va.
Et surtout, il ne faut pas avoir peur de gêner ou de déranger. Parce que quand on est élève, on est souvent cantonné dans son rôle. On n'a pas... les adultes, c'est un autre monde.
Alors, on n'a pas parlé de la qualité du stage. Vous, par exemple, Amaury Montmoreau, puisque vous mettez en relation des stagiaires qui ont déposé leur candidature via votre entreprise et des entreprises qui payent un service pour avoir accès à cette banque de stagiaires en attente de stage. Quel conseil vous donnez pour que les stagiaires, quand ils passent leur entretien, s'assurent que ils vont avoir un stage formateur? Les questions clés à poser?
Alors, faut comprendre. Déjà, il faut savoir, encore une fois, ce qu'on recherche pour savoir qu'est-ce qui va nous amener à avoir un stage formateur. Et ensuite, faut essayer de comprendre l'environnement du stage, quel est le contexte, pourquoi est-ce que l'entreprise prend un stagiaire, quels sont les enjeux, quels sont les challenges. Et après, tout simplement, poser la question, qu'est-ce que je vais apprendre, comment je vais grandir pendant ce stage, et quelles compétences je vais utiliser, et quelles compétences je vais finalement acquérir tout au long du stage.
Oui, poser des questions sur la mission, tout simplement.
Oui.
Voilà,
qu'est-ce que vous attendez de moi?
Voilà, exactement.
Tout simplement.
Et le contexte.
La France, alors, a maintenant une réglementation qui est quand même assez stricte pour éviter les abus. Il y a eu beaucoup d'abus, et il y a toujours des abus, mais il y a des quotas de stagiaires par entreprise, par semaine. Des entreprises de moins de 20 salariés, évidemment, ne peuvent pas accueillir plus de 3 stagiaires pendant une même semaine. Si on a une entreprise plus de 20 salariés, le nombre de stagiaires ne doit pas dépasser, grosso modo, 15% de l'effectif effectif, enfin le calcul est un tout petit peu plus complexe, mais c'est à peu près ça. Et puis en principe, il y a des amendes par l'inspection du travail si cette réglementation n'est pas respectée. Ça a eu quels effets sur les stagiaires, sur le marché des stages ?
Bah, on peut dire que c'est vrai qu'après, ça peut poser des problèmes dans le sens où l'entreprise va devoir peut-être plus se limiter au nombre de stagiaires accueillis par an. Mais concrètement, aujourd'hui, on ne voit pas encore de réels effets sur la population d'étudiants. La difficulté de trouver un stage était déjà là avant et elle reste encore présente.
Bah, en fait, un peu le souci dans cette loi... Donc, qui est très bien d'encadrer les abus. Donc voilà. Mais un des soucis, c'est qu'on a une offre et une demande et qu'on a fait bouger l'offre sans faire bouger la demande. Donc à un moment donné, ce qui était une galère devient encore plus une galère. Mmh. Et après, le souci aussi, c'est que ça ne pousse pas à la mixité dans les entreprises, à la diversité au sein des entreprises. Parce que finalement, c'est ceux qui, justement, ça renforce ce sentiment de celui qui a le piston, celui qui a le bras long, celui qui connaît, peut finalement y accéder et pas les autres qui sur le papier on va dire sont pas forcément font pas forcément partie de l'élite telle qu'on l'entend.
Gaëlle Frélé, vous quand vous avez monté cette association avec Virginie Salmen Viens voir mon taf, vous avez quand vous avez contacté les entreprises pour avoir un maximum d'entreprises référencées qui jouent le jeu, vous avez joué sur la corde ouverture sociale des entreprises, rôle de citoyenne aussi, des rôles citoyens des entreprises.
Oui, alors nous, c'est une action citoyenne, on l'a très rapidement définie comme ça, mais on n'a pas forcément du coup contacté directement d'abord les entreprises, mais les professionnels. C'est individuel, une candidature individuelle, des offres de stage individuelles. On voulait que ce soit des personnes qui soient volontaires pour accueillir des stagiaires.
Tout est noté en tout cas sur la page des 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Merci à vous tous d'être venus pour parler de cette galère des stages. Bien sûr, on refera sûrement des émissions pour continuer de donner des conseils. À lundi.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO. Thank you.